Page à Page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons en ce vendredi 28 mars sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jacques Lavergne. Bonjour Jacques.
Bonjour Claire et merci de me recevoir sur Radio Occitanie.
C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de votre nouveau roman qui s'intitule Barcelone, aller simple, publié aux éditions Mare Nostrum. On en parle dans quelques instants après la page info. Pour vous signaler que demain, samedi 29 mars, de 10h30 à 12h30, à la médiathèque José Cabanis de Toulouse, au troisième étage, au petit auditorium, aura lieu l'atelier de lecture de poésie animé par Blandine Poney. L'atelier est gratuit, mais il est préférable de réserver pour une question de place au 05 62 27 45 69. Ensuite, mercredi 2 avril, j'ai deux annonces donc pour ce jour-là. Tout d'abord, l'après-midi, eh bien, à 14h à Cultura Balma, une rencontre avec justement notre invité, mon invité, Jacques Lavergne, et Barcelone, aller simple. Donc n'hésitez pas à aller le rencontrer mercredi 2 avril à Cultura de Balma. Et puis le même soir, le même jour, mais le soir à 20h30, à la Boulanguette, boulevard Eugène Montel, rond-point La Fontaine. Lumineuse, c'est bien joli. À Tournefeuille, le café littéraire de Tournefeuille vous propose un rendez-vous littéraire autour du livre Le pays des marées d'Amitaf Gauche.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, Jacques Lavergne, on peut rappeler que vous êtes catalan par votre maman.
Tout à fait.
Et puis que votre grand-père, Pierre Pagès, vous a donné la passion des livres et de la lecture.
Je vois que vous n'avez pas oublié.
Ah non, on n'oublie pas ici à Page sur Radio Occitanie, on se souvient de tout. Et que Pierre Pagès, justement, ce nom et ce prénom de votre grand-père, vous l'avez repris pour un personnage de votre, déjà de votre premier roman, et on le retrouve avec grand plaisir dans ce second roman, on va le voir.
Tout à fait.
Un peu un hommage, donc, souvenir à ce grand-père.
Qui a beaucoup compté pour moi et qui m'a donné la passion du livre, de la lecture et de beaucoup d'autres choses.
Et puis, on peut noter aussi que vous avez participé à la création de la maison d'édition Au Diable Vauvert.
Voilà, il y a une douzaine d'années déjà qui, elle, fonctionne bien, est en national, et qui est une maison d'édition qui publie beaucoup de littérature contemporaine et méditerranéenne.
Tout à fait. Et puis, accessoirement, dirais-je, vous êtes avocat.
Voilà, ça c'est très accessoire aujourd'hui.
Alors, Barcelone, aller simple. Donc, le deuxième roman, le premier, on va le citer, c'était, vous étiez venu à Page nous le présenter d'ailleurs, c'était Peinture au pistolet à Serret, aux éditions Mare Nostrum également. Un livre d'ailleurs qui résultait un peu d'un défi avec un ami.
Hein. D'un pari.
D'un pari, exactement, voilà. Donc, un défi qui a été largement et relevé et très mérité.
Oui, hein. J'en étais le premier surpris, mais donc, du coup, j'ai continué.
Eh bien, voilà. Et là, vous revenez avec Barcelone, aller simple, toujours aux éditions Mare Nostrum. Et c'est un roman, moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, bon, roman policier, certes, mais pas que. On va le voir. Et puis, avec Barcelone comme un des personnages principaux, on va dire, cette très belle ville que vous aimez beaucoup, d'ailleurs, Jacques.
Tout à fait. Oui, c'est une ville dans laquelle j'aurais aimé vivre et travailler. C'est un peu tard maintenant, mais...
Oh, ben, on ne sait jamais. Pour la retraite,
oui,
peut-être.
Oui, voilà, je remercie, oui, de non, me non, mettre mais... déjà la retraite. Mais
non, mais...
Ça va finir par arriver, effectivement.
Voilà, pour vous reposer, ce n'est pas le mot, parce que Barcelone, je ne sais pas si on se repose beaucoup à Barcelone. Mais
non,
bon,
sinon
pour,
c'est triste.
Ben voilà, pour profiter de Barcelone. Alors, dans ce second roman, on retrouve, comme je disais, le personnage de Pierre Pagès qu'on avait rencontré lors du premier roman. Et puis donc, un roman plein de suspense, hein, jusqu'aux dernières pages, hein, vraiment. Hein, on est tenu en haleine jusqu'aux dernières pages du livre. Et puis, il y a aussi de l'émotion dans ce roman et des sentiments. Alors l'amitié bien sûr, mais aussi l'amour. Et puis il y a de très belles descriptions de la belle Barcelone, comme je viens de le dire. Et donc il y a aussi de l'humour avec qui me vient en tête, par exemple le vœu de Pierre Pagès justement de se réincarner en bébé gorille barcelonais pour être dorloté par Antonia Puig. digue. Ça m'a fait beaucoup sourire. Et puis aussi le petit clin d'œil aux éditions Mare Nostrum, quand justement Pierre Pagès dit à Asma, un personnage principal, on va le voir, du roman, quand il lui dit d'arrêter de lire les polars de Mare Nostrum. Donc beaucoup d'humour aussi. Et puis bien sûr, une histoire pleine de secrets dont il va falloir démêler les fils en évitant les dangers. Et cette histoire, justement, se passe à la fois à notre époque, mais également dans le passé, avec un retour dans le passé et dans le souvenir de la guerre civile espagnole et de la retirade.
Oui, la retirade est ce livre en réalité comporte trois ingrédients. Finalement, une ville, la ville de Barcelone, vous l'avez dit, oui. Qui est la ville de Gaudi aussi, puisqu'on se promène passablement dans les réalisations de Gaudi.
Tout à fait.
Un deuxième événement, vous venez de le dire, un événement historique, c'est la retirade. Et on pourra peut-être en dire un mot parce que c'est quelque chose dans notre région qui est important. Et ensuite, un mystère qui est le troisième ingrédient, qui est la disparition d'un étudiant du programme Erasmus. Alors, je dois dire que c'est un fait réel et je suis parti d'un fait réel d'un jeune étudiant qui, en novembre 2007, a purement et simplement disparu, s'est évaporé puisqu'on n'a retrouvé aucune trace, aucun corps, aucune puce de téléphone qui aurait pu donner des indications, aucune carte bancaire, rien, pas d'affaires.
Il a disparu à Barcelone.
Ce garçon a disparu à Barcelone et je démarre mon livre, dans le premier chapitre d'ailleurs, sur cette disparition. Les conditions que je relate de la disparition sont exactes. Et cette disparition, moi, m'a beaucoup intrigué. Si on va d'ailleurs à Barcelone, je crois que c'est encore vrai maintenant, on voit beaucoup d'affichettes composées, c'est ses condisciples qui le recherchent toujours pour le retrouver. Donc on le recherche, il y a eu des émissions à la radio, il y a des émissions de télévision.
Et on ne l'a jamais retrouvé.
Donc c'est quand même un grand mystère, un gosse de 20 ans, beau comme on l'est à 20 ans, dynamique, fougueux, qui du jour au lendemain passe un coup de fil à ses colocataires et s'évapore dans la nature.
Oui, donc là, Gilles, en l'occurrence, c'est à son grand-père qu'il a passé un coup de fil avant de disparaître. Voilà. Mais heureusement, pour rassurer nos auditeurs et les futurs lecteurs, Gilles ne va pas disparaître.
Ne disons pas tout.
Mais bon, ça ne sera pas comme la fiction. Et quand même, sera là quand même pour combler.
Ces disparitions sont tout à fait intéressantes parce que vous savez qu'en France, ce n'est pas un phénomène isolé. Il y a à peu près 40 000 personnes qui disparaissent tous les ans.
Il y en a qui disparaissent peut-être volontairement.
Oui. Il y a une brigade spécialisée à la PJ de Paris, je crois, qui est chargée de les retrouver. On en retrouve certains, mais s'ils sont majeurs, vaccinés, s'ils sont en pleine possession de leurs moyens, ma foi, on ne peut rien leur dire. Alors, on en retrouve à peu près 30 000. Mais en fait, ça en laisse quand même 10 000 dans la nature dont on ne sait pas s'ils sont venus, ce qui reste considérable. Hein.
Donc, en fait, ce livre est né de cette...
Il est né de cette ville que j'aime, il est né de cette disparition. Et moi, cette disparition me passionne toujours. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur les disparitions. Et c'est tout à fait fascinant.
Et puis,
cette retirade qui est quand même relativement connue dans nos pays du Sud, surtout en Catalogne, évidemment. Donc, la retirade, rappelons ce que c'est, hein. C'est la Seconde République espagnole qui va chuter. C'est la victoire de Franco. Ce sont les armées de Franco qui vont monter et coincer les républicains dans Barcelone. On peut relire Malraux, j'y fais un clin d'œil dans mon livre. Il y a des très belles pages de Malraux là-dessus. Et ces républicains qui vont se faire coincer vont devoir se dégager et ils vont monter au nord. Et ils vont passer les Pyrénées. Et ça va être... Là, je vous parle fin janvier 39, début février, puisque la prise de Barcelone remonte au 26 janvier 39.
Justement, le prologue du livre commence par cette prise, effectivement. De la prise de
puisque,
Barcelone.
L'origine de mon mystère, de ce mystère, parce qu'il fallait que je trouve un mystère à la disparition de cet étudiant, donc je me suis raconté une histoire. Je vous l'ai raconté, mais il fallait que je satisfasse mon esprit par une solution, donc je l'ai trouvé, et ça prend naissance dans la retirade, effectivement. Et donc cette retirade, ça va être pas moins de 500 000 personnes qui, en l'espace de 15 jours, vont passer les Pyrénées françaises, un côté catalan,
dans des conditions extrêmement difficiles.
D'ailleurs, je vous lirai tout à l'heure un petit texte qui est le récit d'un enfant qui faisait partie de cet exode. C'était véritablement un exode. Hein. Femme, enfant, vieillard, on est parti par tous les moyens, à pied, à cheval aussi, en voiture, par bateau. On a tout tenté pour se dégager des franquistes qui les bombardaient tout au long du trajet. Ça a été un trajet extrêmement complexe. Et ces gens se sont retrouvés en France, dans un département qui comptait 240 000 personnes pour 500 000 qui arrivaient. Donc vous imaginez ce qui a pu se passer. Et ils pensaient se retrouver dans un département, ou plutôt dans un pays ami.
C'est accueillant.
Pas tout à fait ce
que... Oui, ça ne s'est pas passé.
Alors,
tout
si
à fait
voulez,
comme
j'ai,
ça.
J'ai juste ce petit texte qui est issu
d'un livre. Oui, avec plaisir, je vous laisse...
Qui a été édité d'ailleurs par mon éditeur Marino Strum, qui a édité énormément... De récits et de livres de photos sur la retirade. Voilà ce que nous dit celui qui était à l'époque un enfant. Au 4 février 39, date à laquelle je suis passé en France avec mon père, ma mère et ma sœur, j'avais 12 ans. Nous sommes partis à pied du village, en empruntant la route menant à la frontière, au milieu de pauvres gens déjà meurtris, qui repartiront bientôt de zéro, démunis de tout, y compris du minimum, pour s'abriter et se nourrir. Sur le chemin, la colonne de civils a été plusieurs fois mitraillée, et nous étions obligés de nous jeter dans le fossé. Pour nous rassurer, mon père disait que nous allions dans la patrie de la Révolution française et de la Commune de Paris, et que tout le monde parlait catalan en Roussillon. En guise d'accueil, les gendarmes triaient les femmes, les enfants et les hommes avec des « allez hop » pour accélérer la cadence. Nous avons été transférés au Boulou, nous avons dormi au bord d'une rivière, avec une couverture par personne pour nous protéger d'une nuit glaciale à la Belle Étoile. Nous avons été ensuite à nouveau triés. Mon père, qui avait réussi à rester avec nous, a dû rejoindre les hommes. Ce fut terrible comme séparation. Ma sœur, ma mère et moi sommes partis en convoi sur Argelès-sur-Mer. Tout le monde marchait, même les mères qui portaient les nouveau-nés. Camp de concentration d'Argelès. Là aussi, les souvenirs me font froid dans le dos. Nous dormions dans des trous dans le sable avec une couverture pour nous abriter du vent. Il n'y avait rien, pas de baraque, pas un abri, que du sable et des barbelés. Pour nos besoins naturels, il fallait aller à la mer sous les regards moqueurs de certains gardes. Je me rappelle que les femmes faisaient un cercle autour de celles qui s'accroupissaient. C'est ainsi la seule intimité qui leur restait. Voilà, on pourrait continuer, mais ça donne un peu le ton.
Oui, ça donne, oui, tout à fait.
Et j'ai parlé, dans ce jeune, parle de camps de concentration.
Ça fait tout à fait penser à ça.
Il faut,
c'est
mais c'était des camps de concentration. Il faut savoir que les camps de concentration n'ont pas été inventés par les Allemands, mais les Français se sont demandé ce qu'ils allaient faire de cet afflux de réfugiés espagnols. Et on a dit, on va les mettre dans des camps, on va les concentrer dans des camps. Et on a créé des camps de concentration dont on voit encore des vestiges qui se visitent, malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, notamment le camp de Rivesaltes.
Oui, tout à fait.
Ces camps, l'idée a fait son chemin, et elle a été immédiatement reprise par qui vous savez, qui a développé le concept,
oui,
et qui l'a, entre guillemets, si vous me passez l'expression, modernisé. Voilà, nous sommes quand même les inventeurs des camps de concentration.
C'est assez effrayant comme constat. Donc, et moi je voulais noter, c'est en prélude de votre livre, vous avez noté une très belle phrase d'Honoré de Balzac que je ne peux m'empêcher de citer tant elle m'a plu, c'est « oublier, c'est presque toujours se souvenir ». Et c'est tout à fait ça.
Oui, on pourra en citer une autre qui est de Faulkner et qui résume à peu près tout l'esprit de mon livre, c'est « le passé n'est pas mort, il n'est même pas encore passé ». Et je crois
qu'on est en plein dans ce que j'ai
essayé d'écrire.
Oui, et ici à Toulouse, la retirade, c'est quelque chose, comme vous l'avez dit, Jacques, de très présent, de très prégnant encore.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui.
Il faut savoir aussi que ces républicains espagnols ont pris ensuite une part active à la résistance française. Par active parce qu'ils avaient déjà combattu, ils savaient se battre, ils savaient manier les armes, les explosifs, et on les a retrouvés à peu près dans tous les maquis de France. Et savoir aussi que lorsque Paris a été libéré par les Charles Leclerc, et bien dans les Charles Leclerc, qui sait qu'il y avait en grande partie des républicains espagnols. Donc il faut quand même leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Ils ont combattu à nos côtés pour la liberté.
Tout à fait. Alors, le prologue, comme vous l'avez dit, c'est Barcelone, janvier 1939, le 26. Donc, on va pas le dévoiler, ce prologue. C'est deux personnages qui ont leur importance. C'est un qui va s'exiler, le jeune homme va s'exiler en laissant sa jeune fiancée à Barcelone et en lui promettant de revenir quand les temps seront meilleurs. Et puis après, on enchaîne avec le premier chapitre où là, c'est l'histoire actuelle. On est en 2008, on est à Banyuls. Gilles, qui est fils de vigneron, donc à Banyuls, part à Barcelone pour finir sa thèse sur Gaudi dans le cadre du programme Erasmus et dans le cadre de ses études d'architecture. Et puis il y a Asma, son ami d'enfance, parce qu'ils ont été élevés quasiment ensemble, du fait de l'histoire aussi personnelle d'Asma, qui est importante aussi, puisque son père était harki. Et voilà. Donc, c'est aussi un aspect qui est important.
Un réfugié, c'est un autre exode qui va se croiser avec le premier.
Avec le premier. Et donc, Asma, elle fait des études de philosophie à Perpignan. Et donc, elle va, quand elle sait que Gilles a disparu après avoir donné un appel téléphonique à son grand-père, elle décide de partir à Barcelone pour essayer de le retrouver.
Elle va tenter de le retrouver, de le rechercher, de mener un peu l'enquête dans les milieux étudiants. Et de là va partir toute une série de, à la fois d'intrigues, mais aussi de rebondissements, de péripéties
qui vont faire. Et elle va fréquenter, voilà, elle va faire les visites justement des créations de Gaudi, parce qu'elle se dit, voilà, Gilles y a forcément été, puisque c'est le sujet de sa thèse, et je vais forcément peut-être rencontrer des gens qui l'ont croisé, qui l'ont vu. Et donc, à un moment, il y a justement un rendez-vous au Parc Güell, superbe parc, et où elle a rendez-vous avec un des colocataires de Gilles, sous le temple de Gaudi, un endroit magique.
Tout à fait magique, oui, que beaucoup de gens passent un peu trop rapidement. D'ailleurs, il y a...
Il faut dire qu'il y a tellement de monde aussi.
Oui, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a cet aspect dont je parle. Le lieu de la rencontre se fait dans un endroit bien particulier que le touriste ne visite pas, mais qui existe, qui est une crypte qui se trouve sous le temple. Et qui est la réserve d'eau. C'est la crypte qui recueille toutes les eaux qui viennent du jardin et notamment du toit du temple. Et c'est un endroit aussi qui est totalement magique.
Alors, il y a aussi sa rencontre sympathique avec Vivica, une mezzo-soprano, qui est...
Alors, Vivica, il faut dire ce qui est, je ne l'ai pas demandé son autorisation, mais elle s'appelle Vivica Génaud, et les amateurs de musique, moi, je l'ai entendu chanter ici à l'Allograin, et donc c'est un physique et une voix qui ne m'avait pas quitté, comme tous les gens qui écrivent, on engrange plein de choses, de visages,
d'informations, d'anecdotes
dans la tête, et après, ça ressort à un moment ou un autre, et donc Vivica Génaud, dont j'ai les CD chez moi, et que beaucoup, certainement, de nos auditeurs ont déjà dû entendre, Vivica Génaud existe, j'espère qu'elle me pardonnera de lui avoir fait jouer ce rôle.
Mais c'est un beau rôle. Elle va aider Asma à retrouver Gilles, justement. Elle va aider Asma dans son enquête et dans sa quête. Et puis, c'est un personnage très sympathique, Vivica. Et puis, donc, on assiste à une balade dans Barcelone avec, par exemple, le marché Santa Caterina ou encore la Sagrada Familia, bien entendu, le port, la Plaza Real.
Incontournable, la Sagrada Familia. Oui,
voilà, donc on se balade dans Barcelone en même temps qu'Asma fait ses recherches pour retrouver Gilles. Alors, elle est même agressée, alors dans deux endroits d'ailleurs, dans le tunnel du funiculaire et puis aussi dans la maison, dans la Casa...
Le nom m'échappe aussi.
Ah, non, alors, Batlló.
Oui.
Voilà.
Batlló, oui.
Batlló, la Casa Batlló. Et puis, donc, elle se décide à aller quand même voir la police barcelonaise parce que ces agressions, c'est quand même...
Elle y est un peu contrainte. Oui. Donc, ce qu'on appelle les Mossos d'Esquadra à Barcelone, qui est la police catalane, et qui sont des gens qui connaissent bien leur métier, leur ville, et qui la tiennent bien, ce qui me renvoie finalement à la disparition de mon étudiant. C'est une ville qui est assez policée en tous les sens du terme.
Oui, donc on aurait dû le retrouver quand même.
C'est quand même curieux que nous ne sachions toujours pas s'il s'agit d'une disparition accidentelle, criminelle ou volontaire.
Ou volontaire, oui. Alors elle va y rencontrer justement le commissaire Contreras. Alors c'est un sacré bonhomme ce commissaire.
Oui, là aussi.
Haut en couleur.
Oui, clin d'œil là aussi à quelques auteurs catalans. Il y a beaucoup d'excellents auteurs, et bien meilleurs que je ne le suis, de polar catalan. Et le commissaire Contreras se retrouve chez certains. Donc c'est aussi un clin d'œil.
Un clin d'œil. Il y a plein de clins d'œil en fait.
Oui, il y a beaucoup de clins d'œil à mes amis catalans. Voilà.
Et il y a aussi un clin d'œil aussi aux joueurs de l'USAP.
Oui, un peu, oui.
Et oui, je l'ai noté parce qu'on en avait parlé lors de notre première émission peinture au pistolet à serrer. Oui, tout à fait. Alors, donc, Vivica, justement, va présenter aussi un autre personnage important à Asma. Il s'agit de Patrice Kaduka, un ancien truand reconverti en machine à sous.
Oui,
entrepreneur de machines à sous,
mais effectivement dans le commerce ou plutôt l'exploitation des machines à sous.
Voilà, tout à fait. Donc un ancien truand, donc avec qui a conservé bien pas mal d'amitié dans ce milieu.
Et de relations,
et puis qui est heureusement, parce que on va le voir pour la fusillade à Sagrada Familia, heureusement il a conservé des armes aussi, munitions.
Oui, il est très équipé, il a le personnel et les moyens qu'il faut.
Et donc il y a une très grosse fusillade à un moment, un passage de la fusillade à Sagrada Familia en pleine nuit, et là on se dit Heureusement que c'est de la fiction, parce que sinon, elle serait en bien mauvais état, Sagrada Familia. Et puis, donc, ensuite, Alma va retourner à Banyuls pour raconter quand même à ses parents tout ce qui vient de lui arriver. Et en même temps, elle emmène Vivica à Banyuls. Et puis, elle raconte aussi au grand-père de Gilles, également, toutes ses péripéties, ce qu'elle a découvert. Et alors là, le grand-père, qui lui aussi est un personnage très important du livre, l'Auguste, hein, comme on dit, qui est un taiseux, hein, un sacré bonhomme.
Oui, un patriarche catalan.
Ben voilà. Décide, lui, de partir à Barcelone pour, dit-il, régler une vieille affaire.
Voilà, et c'est de là, après, on ne va peut-être pas trop en dire, sinon on finira par mettre la puce à l'oreille des lecteurs, des futurs lecteurs et des auditeurs. Mais effectivement, après, nous terminerons à Barcelone pour conclure cette histoire avec le conservateur du musée de Serré.
Oui, qui va les accompagner, parce qu'Alma, bien sûr, retourne avec le grand-père.
Pierre Pagès, qui va un peu essayer de venir apporter ce soutien à cette famille Bagnoulenc qu'il connaît bien et dont il est très proche.
Et oui, pour retrouver Gilles, bien sûr. Hein, c'est le but principal au départ de cette histoire.
Ça.
Alors, de Barcelone, après, on va quand même passer à Cadaqués.
Oui,
c'est un joli endroit, Cadaqués.
C'est un endroit absolument merveilleux, et surtout le Cap Creus, que les Catalans connaissent bien, qui est un peu redouté par les navigateurs.
Le phare, avec son fameux phare.
Facile à passer, moins facile à remonter.
La tramontane aussi.
Cette tramontane, ce vent
fort,
qui souffle sur ce cap, qui est véritablement. C'est la lune, là-haut, sous le vent, ces rochers, ces herbes qui s'accrochent, ces quelques plantes qui s'accrochent sur les rochers balayées par le vent. C'est un endroit très, très particulier qui incite à la rêverie, à l'imagination aussi. Bon, c'est pour ça que j'ai souhaité terminer sur Cadaqués.
Qui a goûté à Cadaqués ne l'oubliera jamais.
Voilà, on y revient toujours. Et c'est vrai que c'est un peu l'enfer quand on y va au mois de juillet.
Ah oui,
quand on y va hors saison, ça peut très vite devenir un paradis.
D'ailleurs, il y a un passage sur Cadaqués, je cite, « Un passé de légende fait de pirates, de naufrages, de peintres et de corailleurs, de sorcières et de pêcheurs. »
Oui, c'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça, Cadaqués.
Oui. Enfin, c'est comme ça qu'on peut le voir si on enlève un peu tous les touristes.
Ah oui, ça on ne les compte pas.
Les tetons en Marseille et les autres, si on enlève tout ça et si on arrive à le voir sans ces scories, c'est un pays tout à fait fabuleux.
Et puis la grotte de l'enfer.
La grotte de l'enfer, que peu de gens connaissent d'ailleurs.
Je ne connaissais pas.
Voilà, qui est au ras des flots, que tout le monde n'a pas vu, mais que mes lecteurs, dans laquelle mes lecteurs vont aller se balader.
Eh bien oui,
on n'en dira pas plus.
La fin de l'histoire, où éclatera beaucoup de choses. Et donc, comme je le disais, donc Barcelone, elle est simple, c'est un livre, un roman policier, oui, certes, parce qu'il y a une histoire de disparition et qu'il va falloir retrouver pourquoi, etc. Mais ce n'est pas que un roman policier. C'est aussi une très belle balade dans Barcelone, avec Barcelone comme personnage principal, ou tout du moins un des personnages principaux. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, un roman aussi qui surfonde d'histoires douloureuses, celle de la guerre civile espagnole et de la retirade. Donc, c'est vraiment un livre, complet, complexe et complet.
On aborde beaucoup de thèmes un peu parallèles, celui des Arquis et autres. C'est vrai que c'est la liberté de l'auteur que de se balader dans différents mondes et parfois de les mélanger.
Et pour notre plus grand plaisir, Jacques, c'était vraiment, ma lecture m'a beaucoup plu et je pense qu'elle plaira également aux auditeurs de Radio Occitanie, Barcelone à l'Essimple, aux éditions Mare Nostrum de Jacques Lavergne. Alors Jacques, avant de terminer cette émission, d'écriture.
Oui, ce ne sont même plus des projets, c'est en train de devenir réalité petit à petit. Donc j'écris un prochain livre qui démarrera aussi en pays catalan, c'est un peu le jeu, mais qui ne demeurera pas en pays catalan. Je crois qu'on ira un peu se balader, peut-être dans les pays de l'Est.
Ah, d'accord.
C'est en train de s'écrire.
Bon.
Voilà.
Donc vous reviendrez nous en parler à page.
Si vous m'invitez, ce sera avec grand plaisir.
Ça sera avec plaisir que je vous inviterai, Jacques. Alors, pour nous, auditeurs de Radio Occitanie, on se retrouve vendredi prochain, 4 avril, sur Radio Occitanie. Et je recevrai Jean-Antoine Loiseau, qui nous dévoilera le programme de la 10e édition des rencontres francophone du livre et du vin qui aura lieu les 12 et 13 avril prochains à Balma. Et alors un petit clin d'œil, Jacques, on va se quitter avec une chanson que vous connaissez certainement, Benim del Norte, Benim del Sud.
Vous avez presque l'accent, c'est bien.
Presque. Alors c'est une chanson de Luis Llach. Et elle est interprétée par Guillaume Lopez et Éric Frage.
Eh bien, écoutons-la.
Merci beaucoup, Jacques.
Merci à vous, Claire. À bientôt.
Adiciat.
Venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres, si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberat. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar.
Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no es mena cap bandera que no es digui llibertat, la llibertat de vida plena, que és llibertat dels meus companys. I volem ser per caminar, i caminar per poder ser.
Venim del sort, de terra endins, de mar enllà.
I no sabem himnes triomfals ni marca el pas del vencedor,
que si la lluita és sagnant serà amb vergonya de la sang.
I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. De terra endins, de mar enllà.
Seran inútils les cadenes d'un poder sempre esclavitzant,
que si és la vida mateixa que ens obliga a cada pas.
I caminem per poder ser,
i volem ser per caminar. Que caminem per poder ser,
i volem ser per caminar.